conte magique, d'après l'ancien texte chinois de Pu Sung Lin, l'immortel en exil, traduit par Louis Laloy. Le fou de lecture. Lang Yu Chu appartenait à une famille de fonctionnaires qui avaient atteint des grades assez élevés, mais s'étaient toujours contentés de leur traitement pour vivre et n'avaient rien amassé, sinon des livres, dont une chambre entière était remplie. Quant à Yu Chu, c'était un original de premier ordre. Très pauvre, il vendit tout ce qui se trouvait dans sa maison, à l'exception des livres dont il ne céda pas un volume. Son père, en son vivant, avait écrit un jour le chapitre de l'exhortation à l'étude et l'avait collé à la droite de son fauteuil. Point n'est besoin pour enrichir votre maison d'acheter un champ fertile. Dans les livres, vous trouverez du grain par quinto. Point n'est besoin pour loger votre femme de construire une chambre haute. Dans les livres, vous trouverez une chambre d'or. Pour vous marier, ne regrettez pas l'absence d'un intermédiaire. Dans les livres, vous trouverez une femme au visage précieux comme le jade. Si vous sortez, ne regrettez pas que personne ne vous accompagne. Dans les livres, vous trouverez des attelages et des chars en rang serré. Si vous voulez que votre vie durant, votre volonté s'accomplisse, lisez avec respect les livres sacrés devant votre fenêtre. Lang récitait chaque jour ses sentences, et même, dans la crainte de les voir s'effacer, il les couvrit d'une gaze transparente. Il ne songeait nullement à se faire une situation par l'étude. Il croyait que les livres contenaient réellement du grain et de l'or. Jour et nuit, il écrivait et lisait sans souci du froid ni du chaud. À 20 ans, il n'était pas marié, car il espérait toujours qu'une beauté accomplie sortirait de ses livres. Quand on venait le voir, sans demander de quoi il s'agissait, après quelques propos de politesse, il se mettait à réciter à plein poumon et le visiteur s'arrangeait pour disparaître. Chaque fois que le grand examinateur passait par là, sa première visite était pour Lang, qui ne se laissait pas fléchir et refusait de lui vendre ses livres. Un jour, qu'il se mettait à sa lecture, un coup de vent enleva le volume. En courant après, il trébucha. À ses pieds s'ouvrait un trou rempli de foin pourri. Il creusa et trouva du grain qu'on avait mis là jadis et qui depuis longtemps était gâté. Bien qu'on n'en pût rien faire, Lang crut que la première sentence de l'inscription s'accomplissait et se remit à lire avec plus d'acharnement. Un jour que monté sur une échelle, il cherchait au rayon supérieur de sa bibliothèque, il trouva parmi les volumes en désordre un petit carrosse en or, large d'un pied. Tout joyeux, il reconnut la chambre d'or et montra sa trouvaille. Ce n'était que du métal doré, et Lang déplora la fraude des anciens hommes. Peu après, un ancien camarade de son père, fervent adorateur de faux, fut appelé par ses fonctions à passer par là. On conseilla à Lang de lui offrir le carrosse pour servir de niche à son dieu. En récompense, l'autre lui donna 300 pièces d'or et 2 chevaux. Lang comprit qu'outre la chambre d'or, il avait aussi obtenu le char et s'en trouva plus encouragé encore. Il avait 30 ans. On le pressait de se marier et il répondait « Mes livres me donneront une femme au visage pareil au jade. Pourquoi me mettre en souci ?» parce que je n'ai pas d'épouse. » Il lut encore ses livres 2 ou 3 ans, mais sans résultat, si bien qu'on commençait à se moquer de lui. On racontait alors dans le peuple que l'étoile nommée la Tisserande s'était enfuie. Quelques amis lui dirent en plaisantant que si cette petite fille du ciel quittait ainsi le logis, c'était sûrement en son honneur. L'homme comprit qu'on voulait rire et s'abstint de discuter. Un soir qu'il lisait les annales des Han, il en était vers la moitié du 8e volume, quand il découvrit une petite figure de femme en gaze découpée serré entre les feuillets. Surpris, il s'écria « Est-ce là la femme au visage de jade qui doit se trouver dans les livres ?» Bouleversé, il la regarda de près. Son regard semblait vivre et sur son dos se trouvait écrit en tout petit caractère « La Tisserande ». Stupéfait, il passa les jours à la remettre dans le livre, puis à l'en retirer pour la prendre et la manier. Il en perdait appétit et sommeil. Un jour qu'il la contemplait, elle se mit tout à coup sur son séant et, assise sur le livre, lui adressa un léger sourire. L'angle épouvanté se prosterna sous la table. Quand il se releva, elle avait déjà un pied de haut. Il la salua encore et elle descendit légèrement de la table, toute pareille à une jolie femme. Il lui demanda alors quelle divinité elle était. Elle répondit en souriant : « Mon nom est Visage de Jade. Depuis longtemps vous êtes mon ami. Vous ne cessez de me faire les yeux doux tout le jour. J'ai craint, si je ne venais pas à vous, de ne plus rencontrer dans le cours de 1000 années un homme de foi comme vous. » L'ang, comblé de joie, l'emmena dans sa chambre, mais même sur le lit, malgré tout son amour, il ne savait se comporter en homme et ne faisait que lire. La jeune femme, assise à son côté, elle finit par le lui défendre, mais il n'obéit pas. Elle lui dit alors : « Ce qui vous empêche d'arriver, c'est uniquement votre lecture. Parmi ceux dont les noms figurent sur la liste des candidats heureux, combien lisent autant que vous ? Si vous ne m'obéissez pas, je m'en irai. » L'ang fut docile pendant quelques jours, puis il s'oublia et se remit à réciter ses auteurs. Au bout d'un moment, il chercha sa compagne. Elle avait disparu. Désespéré, il la supplia à genoux de revenir. Il n'y en avait plus trace. Tout à coup, il se souvint de sa première cachette, prit le volume des annales des Han, l'ouvrit tout doucement et la découvrit, en effet, à sa place. Il l'appela. Elle ne bougea pas. Il se prosterna, implora sa pitié. Elle descendit alors. « Mais, dit-elle, si vous me désobéissez encore, ce sera fini pour toujours. » Elle lui fit préparer un échiquier et chaque jour, elle jouait avec lui. Mais sa pensée était ailleurs et dès que sa compagne avait disparu, il prenait en cachette un livre et s'y plongeait. Craignant d'être surpris, il embrouilla le 8e volume des Annales des Han avec d'autres livres pour l'empêcher de s'y réfugier. Mais un jour qu'il lisait avec ivresse, elle survint. Il ne l'aperçut pas d'abord, puis ayant levé les yeux, il tenta de dissimuler son livre. Mais déjà, elle n'était plus là. Effrayé, il la chercha au hasard, dans le désordre des livres, sans la trouver. Mais quand il fut arrivé au 8e volume des Annales des Han, elle était à la page habituelle. Il la supplia encore, lui jura de ne plus lire. Elle descendit, mais l'invita aussitôt à une partie d'échecs et lui dit « Si dans 3 jours, vous ne vous y mettez pas, je m'en vais. » Le 3e jour, Lang parvenait à lui prendre 2 pions dans la même partie. Toute heureuse, elle lui remit alors un luth et lui donna 5 jours pour apprendre un morceau. Les mains raidies, les yeux fixes, Lang n'avait plus un moment de loisir. Il finit par attraper les notes et la mesure, et même y prit goût peu à peu. Alors la jeune femme se mit à souper chaque jour avec lui, et Lang fut heureux au point d'oublier sa lecture. Elle lui permit de sortir, de se faire des amis, et il passa bientôt pour un fort bon compagnon. « Vous voilà, lui dit-elle, un homme comme les autres. » Une nuit, il lui dit, « Quand un homme et une femme vivent ensemble, ils ont des enfants. Je vis avec vous et nous n'en avons pas. D'où cela vient-il ? » Elle sourit. « Pendant que vous passiez le jour à lire, j'ai pensé que ce n'était pas la peine. Voilà que nous sommes mari et femme, et vous ne savez rien sur ce chapitre. La natte et l'oreiller réclament vos soins. » Quels soins ? Demanda-t-il tout surpris. Elle ne répondit pas, mais après un moment, elle alla tout doucement au-devant de ce qui devait s'accomplir. Au comble du bonheur, il s'écria : Je ne pensais pas que dans les joies du mariage, il y en avait que la parole ne saurait exprimer. Dès lors, il faisait part de sa découverte à tous ceux qu'il rencontrait, et chacun, la main aux lèvres, s'efforçait de ne pas rire. La jeune femme lui fit des reproches à ce sujet, mais il répondit : Quand des amoureux, pour se rejoindre, franchissent les barrières et percent les murailles, comme dit Confucius, certes, il n'en faut pas parler. Mais des joies que la nature et les lois autorisent, qui sont le partage de tous, pourquoi s'en cacher ? Après le temps normal, il leur vint un fils, pour qui on prit une nourrice. Un jour, la jeune femme dit à son mari : Voilà 2 ans que je suis près de vous, et je vous ai donné un fils. Nous pouvons nous quitter. Pendant longtemps, j'ai craint de vous porter malheur. Maintenant, il est trop tard pour le regretter. » Lang se mit à pleurer et, prosterné à terre, ne se relevait pas. « Vous ne pensez donc pas, dit-il, à cet enfant ?» Peinée à son tour, elle finit par dire « Il faut donc que je reste. Il est nécessaire toutefois que vous dispersiez tout ce qui se trouve sur les rayons de votre bibliothèque. » « C'est, répondit-il, votre ancien séjour. C'est toute ma vie. Comment pouvez-vous me demander cela ?» Elle n'usa pas de contrainte et dit simplement « Je sais ce qui doit arriver. Au moins, je vous aurai prévenu. » Or, plusieurs parents et amis de Lang avaient aperçu sa femme, et tous avaient été d'autant plus surpris qu'ils ignoraient son origine. Lang, quand il l'interrogeait, se taisait pour ne pas mentir. Le bruit de cet étrange événement finit par se répandre et parvint jusqu'au préfet de la ville, un jeune licencié du Fukien. Il en fut très intrigué et voulut voir cette beauté inconnue. Il convoqua donc Lang avec sa femme. Mais celle-ci, à cette nouvelle, se cacha et on ne put la trouver. Le préfet, irrité, se saisit alors de Lang, le fit dévêtir et le mit à la torture pour qu'il lui révélât la cachette de sa femme. Lang, mourant, ne révéla rien. On mit également à la torture la nourrice, qui raconta le peu qu'elle savait. Le préfet conclut de là que cette femme était un démon et se rendit en personne à la maison de Lang. Il y trouva une telle masse de livres que, renonçant à les examiner, il les fit tous brûler dans la cour de son palais. La fumée, au lieu de se dissiper, resta réunie comme un tourbillon sombre. Lang, délivré, obtint de retourner chez lui et cette année même fut reçu bachelier. L'année suivante, il était licencié. Mais il gardait la rage au cœur. Matin et soir, tourné vers l'endroit où était autrefois visage de Jade, il la priait ainsi. « Si vous êtes un esprit, aidez-moi à devenir magistrat dans le Fukien. » Par la suite, il fut en effet envoyé dans cette province, en tournée d'inspection, et au bout de 3 mois, commençait une enquête sur des malversations qui avaient commises le préfet. Il fit confisquer tous ses biens. Le chef de la police, qui était un de ses cousins, s'était saisi de la petite épouse favorite du coupable. Lang la fit acheter et conduire à sa résidence. Le procès terminé, il donna sa démission et revint en son pays natal en emmenant sa femme avec lui. Fin du conte « Le fou de lecture » d'après l'ancien texte chinois de Pu Sun Lin, traduit par Louis Laloy.